Ladies.
Mesdames et messieurs, chers membres, bonjour, 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 d'accord. Premièrement, bienvenue. Bienvenue à la première partie de l'Assemblée générale Euralo 2015. Comme vous le savez, nous sommes à Dublin pour cette rencontre de l'ICAN et nous avons préparé cette réunion ces derniers mois et nous avons décidé d'avoir deux parties pour notre Assemblée générale. Une de contenu le matin, fin de matinée dirons-nous, et une partie l'après-midi au niveau des statuts pour parler un petit peu plus de questions statutaires. Vous avez reçu un document, c'est un document essentiel et pour notre Assemblée générale, première partie, et l'ordre du jour pour la partie de l'après-midi. Nous avons des documents clés, comme le rapport annuel, et nous avons préparé plus de documents, comme un papier consacré à l'engagement, également pour le soutien pour les élections du secrétariat, pour la distribution régionale, pour les postes, les différents mandats à effectuer à l'Euralo. Donc vous devez avoir tous les documents dans cette pochette. Bien sur la clé USB qui a été préparée. Donc un document dont vous n'avez pas la version papier. Si vous n'avez pas la version papier, vous la trouverez sur la clé USB. Donc nous avons choisi donc d'imprimer uniquement l'essentiel pour sauver un petit peu l'environnement. Et nous avons également des documents papier qui vous sont distribués dans cette pochette. C'est important, surtout pour la deuxième partie de notre Assemblée générale cet après-midi, qui sera plus complexe que la partie du matin. Ce matin, nous allons nous concentrer, comme je l'ai dit, sur le contenu sur l'intérêt public. Donc, avant de faire mes remarques d'introduction, je vais saluer Olivier qui sera modérateur de la séance. Moi, j'ai travaillé à... Mais je donne la parole à Olivier maintenant, oui. Olivier Crépin-Leblond au micro. Je crois que, avant de commencer, j'essaye de voir si nous devrions faire peut-être l'appel pour que sur la transcription, on puisse nous dire voilà Julia ou Mathieu, si on dit simplement cela. Savoir s'il s'agit de Mathieu Camus. Donc, indiquez simplement votre nom et votre structure at large très rapidement. On va le refaire l'après-midi. C'est pour la transcription. Sinon, ça va dire voix féminine, voix masculine. Donc, commençons avec ce coin de la table. Votre nom, votre affiliation très rapidement. Et on va faire un tour de table et le personnel sera prêt à donner un micro également. Bonjour, Han Rudemand. Je suis de l'association Allemagne pour la protection des données. Jimmy Schultz, nouvelle ALS, membre d'ALAC. Han Colimatillon de Suisse, de Wikimati, de Catalogne. Anne-Marie Jolie de e-senior, d'Autriche. D'une université de Bulgarie. Je suis d'Ukraine, Oliva Pasek, Mathieu Camus, ISOC France, Fondation russe de soutien à l'Internet, basée en France, je suis secrétaire de l'Euralo, Madame Allison du staff de l'ICAN, Bill Drake, membre de l'Euralo, membre sortant, représentant l'association allemande, oui, donc il est un représentant d'ALS, Wolf Ludwig, de Suisse, Olivier Crépin-Leblond, je suis vice-président d'Atlarge sortant, Sylvia Vivanco, personnel d'Atlarge pour l'ICAN, Adi Ulrich, personnel de l'ICAN pour Atlarge, Gisela Gruber, personnel de Atlarge, Caroline Semenov, initiative HIV. Yor Lansibouro, représentant ISOC Finland, Rida Koutine de l'Association des consommateurs de Slovénie, Annette Mühlberg de Network New Media, Sandra Hofritter de la LAC, Stefano Trompi de l'ISOC Italie, Roberto Gaetano de l'Association des utilisateurs d'Europe, d'Ukraine, je suis d'Ukraine, Luxona, je suis d'Allemagne, Moktak Pandolina de Roumanie, Ovaga de ISOC Portugal, et au fond, vous avez Yol Yang, personnel de l'ICANN, Sana Ali, programme NextGen, Demera Bizouk, programme NextGen, Laura Abba, de l'Association nationale d'Italie, ISOC Italie, Gabriel Schitzek, personnel de l'ICANN. Bonjour, Jean-Jacques Subrena, membre de l'ISOC San Francisco. Je suis l'ambassadeur mondial. Je travaille également à l'ICG et au Conseil Net Mondial. Je suis avec Roberto, un des fondateurs de l'Association des utilisateurs individuels. Marianos de Norvège, ISOC Norvège. ISOC Norvège également. Narelia, je suis boursière d'Arménie, centre d'éducation des médias. Je suis donc une ALS, représentant de l'ALS de l'autre côté. Oui. Monica Genelluna, du Centre pour l'Internet et les droits de l'homme à Berlin. Bonjour, Bastien Rosling de ISOC Hollande, Pays-Bas. Gilles Batreau, H Numérix. Sébastien Bachelet, Clark, utilisateur de l'Internet. Lorenzo de Dotgal, Lena Haim, personnel de l'ICANN. Le micro ne fonctionne pas. Lena Gassian de l'ISOC Arménie, Cyranouche Vardanian, ISOC Arménie, membre individuel de Euralo et présidente de Aperalo. Beaucoup. Il y a quelqu'un qui a le micro et je suis Ariel Ling et je suis du personnel de l'ICANN. Eh bien, je crois qu'on a présenté tout le monde dans la salle. Ça prend un peu de temps, mais comme ça, on se comprend et se connaît un petit peu mieux. Donc, pour la logistique, lorsque vous parlez, nous avons des interprètes qui travaillent en coulisses. Donnez votre nom avant de parler, sinon c'est difficile de reconnaître les personnes. Donc, prénom suffira. Interprétation en français et en espagnol est assurée. Voilà. Vous serez donc en mesure de parler français ou espagnol si vous le désirez. Et nous aurons donc besoin d'utiliser le matériel pour l'interprétation simultanée. Nous avons un thème à débattre ce matin sur l'intérêt public. Ça, on en parle beaucoup à l'ICANN. Nous devons définir cela un petit peu mieux. On n'a pas vraiment besoin de le définir, mais il faut véritablement en parler. Parler de ce qu'est l'intérêt public et de voir véritablement si on peut avoir une meilleure idée de ce qu'est l'intérêt public pour notre communauté, la communauté des utilisateurs finaux de l'Internet. On nous dit que c'est impossible à définir l'intérêt public. Et pourtant, c'est quelque chose qui est inscrit dans de nombreux documents officiels en rapport avec la mission de l'ICANN, par rapport à l'affirmation d'engagement, par rapport au contrat, à la mission de l'ICANN. On parle beaucoup de l'intérêt public. Alors, qu'est-ce que c'est ? Nous avons quelques invités avec nous ce matin. Nous avons un article qui a été écrit, vous l'avez sur votre ordinateur, écrit par Wolf Ludwig. Nous avons Bill Drake qui est avec nous également. Il est dans une structure at large et il a beaucoup travaillé également à ces problèmes d'intérêt public. Et à cette question, Konstantinos n'a pas pu venir. Donc, c'est donc une table ronde. Nous avons des intervenants ce matin. Et je crois qu'à la suite de cela, nous pourrons lancer un débat, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, quoi que vous pensiez de l'intérêt public, quelle que soit la définition que vous voulez donner à ces termes. Et donc, nous serons en mesure d'avoir un consensus, d'arriver à un consensus, ou peut-être pas. Mais nous saurons mieux où nous en sommes en ce qui concerne l'intérêt public. Je vais donner la parole pour le moment à Wolf. Parlez-nous donc de votre travail de recherche que vous avez fait sur l'intérêt public. Merci beaucoup de cette présentation. Nous avons donc la communauté de l'ICANN au sens large, au sens très large, qui appartient depuis 2006. un des points d'orientation pour moi a été l'intérêt public. Et ayant été à l'ICANN depuis de nombreuses années et à de nombreuses conférences de l'ICANN, j'ai dit que l'intérêt public, c'était quelque chose d'un petit peu flou, quelque chose d'atmosphérique, quelque chose que l'on ne comprenait pas toujours bien, qu'on ne définissait pas toujours bien, mais ce n'était pas véritablement quelque chose de clair, de précis. J'avais du mal à le mettre le doigt dessus. À la suite de nombreuses années, j'ai compris que c'était de plus en plus contesté par certaines unités constitutives de l'ICANN, tout particulièrement dans le cadre des parties contractées. Il y avait des consultations, on disait, oui, l'intérêt public, vraiment, ça, qu'est-ce que c'est? C'est pas bien défini. Bague. Et il y a eu ensuite une contradiction, c'est mentionné 3 fois dans les vues et 5 fois dans l'affirmation d'engagement AOC. Mais les personnes sont patientes et tant qu'on ne parle pas directement des républiques, eh bien, on n'y prête pas beaucoup d'attention. L'année dernière, on m'a demandé à Ofcom en Suisse d'être consultant. On avait besoin d'un article écrit sur l'intérêt public. Demander de fournir cet article, d'écrire cet article, c'est un travail de recherche sur les définitions même du terme intérêt public. Lorsque vous retracez un terme, une terminologie, si vous vous concentrez uniquement sur l'intérêt public au niveau juridique, en termes juridiques, en tant que catégorie légale, ça devient un petit peu plus complexe. Mais pour moi, c'était toujours question politique. Catégorie. Je ne suis pas avocat, donc je n'y avais jamais pensé en termes juridiques. Véritablement, moi je suis, vous le savez, un animal politique. C'est comme ça que je me définis. Et j'ai pensé en termes historiques et politiques. L'avantage, c'est que j'ai eu un soutien excellent, notamment de mon conjoint, et qui a réfléchi à l'intérêt public également, qui au niveau historique, qui m'a permis de bien comprendre l'évolution du terme et du concept d'intérêt public. Il a été plus facile pour moi de retracer, donc, dans notre contexte, l'intérêt public. Et donc, après l'introduction, je crois que vous avez tous une copie de cet article. J'ai retracé, donc, quelques termes de base que vous retrouvez dans certaines langues européennes. Gemeinwohl en allemand, vous avez le terme grec, Rhinosymphoron, je ne sais pas comment le prononcer, mais vous avez en latin res publica, le bien commun, bien public en français, le bene comune en italien. Donc, beaucoup des républiques ou le bien commun. C'est quelque chose que l'on connaît bien en Europe, dans toutes les langues européennes. Mais j'ai lu beaucoup d'articles sur l'intérêt public qui ne reflétaient pas ses origines historiques du terme. Donc, ça a été ma première considération. Donc, je suis revenu à différentes cultures, différentes langues. J'ai fait des recherches sur les équivalences. Donc, je ne vais pas vous relire tout cela, mais nous commençons avec Aristote, dans la période de la Grèce antique, et son concept de la police. Police, à ce moment-là, c'est un concept qui a été suivi par le civitas dans la culture romaine, mais commence avec le concept d'Aristote. Donc, dans la période de l'Antiquité en Europe, il était clair qu'on parlait déjà de civitas, qu'on parlait déjà de bien commun, de l'équivalent du bien commun. Donc, Michael Stolheins, qui est un historien du droit, qui est allemand, il a écrit beaucoup d'articles et d'ouvrages sur le Gemeinwohl, qui veut dire intérêt public ou bien commun en langue allemande. Et il a accompli également 3 volumes, il a écrit 3 volumes retraçant le droit public dans toute l'Europe. Donc c'est un travail très sérieux, très long. C'est un travail de spécialiste du public. Et au Moyen Âge, de la période du Moyen Âge jusqu'au temps moderne, nous avons eu le concept de bonne police, ou de Polizei en allemand. Donc, ce sont les concepts internes de bien public, de justifier les nouvelles lois, les nouvelles ordonnances, dans l'intérêt public général, dans le bien commun. Ça, c'est un élément clé. Vous pouvez retracer depuis la Grèce antique, en passant par la Rome antique, en passant par le Moyen Âge, en passant par des périodes, le Moyen Âge, où c'était la période où les villes étaient parfois indépendantes. Ils voulaient leur indépendance de l'aristocratie. Passer d'une période féodale à une période moderne, donc le rôle des citoyens était extrêmement important, cette vision, et dans cette culture européenne. C'est un contexte historique dans lequel je replace donc le terme de bien commun. Donc beaucoup d'équivalences. Allemand, également en Allemagne, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais vous pouvez retracer également, même dans les constitutions européennes, et je donne des exemples ici, en Suisse, il y a de cela deux siècles, la constitution française de 1958, la constitution espagnole de 1976 et de nombreux autres documents constitutifs et constitutions européennes font référence au bien commun, à l'intérêt public. Et ma conclusion sera la suivante, que ce n'est pas un fantôme, cet intérêt public. Certains disent que c'est un fantôme. Non, c'est quelque chose de clair. Si vous voulez vous y intéresser, vous allez le trouver. Bien entendu, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours dire que ça n'existe pas. Ce n'est pas le cas. Vous pouvez absolument mettre le point dessus, le doigt dessus, et concept qui existe. Pour moi, en tant qu'utilisateur de l'Internet at large, communauté, j'aimerais que l'intérêt public soit un principe qui nous guide, un principe de base pour les décisions du conseil d'administration de l'ICANN, qui devrait travailler dans le cadre de l'intérêt public et du bien commun, avec cela à l'esprit. Lorsqu'il y a des conflits d'intérêts, selon moi, mon opinion, que la décision finale devrait être basée sur bien commun. Voilà ce que je voulais déclarer, mon rêve, comme disait Martin Luther King, c'est un petit peu mon rêve. Et le contraire de mon rêve, c'est un cauchemar. C'est une approche très régionale, je conviens, je ne peux pas parler pour une autre région du monde. Je ne connais pas assez la situation et l'histoire de l'Amérique latine, par exemple. Je sais qu'il y a une histoire coloniale également en Amérique latine. Je sais que en Afrique, ce fut le cas, en Asie, ce fut le cas. Donc, je suis conscient du fait que c'est un point de vue eurocentrique, européen. Mais je peux imaginer, dans d'autres parties du monde, vous avez des similarités et que vous avez des concepts proches et équivalents. Donc, ça, c'est un article de recherche qui est basé sur la substance, sur quelque chose qui va être donné à les différents râleaux, à nos différents collègues, pour continuer à tracer un petit peu le bien commun ou l'intérêt public dans les différentes cultures et différentes régions du monde. Moi, je crois que les différents râleaux, les cinq râleaux, devraient veiller à cela pour trouver qu'il y a bien un intérêt public mondial, que l'on pourrait définir ainsi, un intérêt public mondial. Olivier Crépin-Leblond, un autre point. En ce qui concerne Adobe Connect, que nous avons devant nous, vous pouvez vous connecter à ça, vous pouvez consulter tous les documents que nous partageons à l'écran. Vous avez donc cette thèse sur l'intérêt public. Est-ce que si nous avons un membre du personnel supplémentaire, indiquez s'il vous plaît comment trouver ces documents, parce qu'on va avoir besoin, toute la journée nous allons travailler à cela, nous allons partager des documents. Très bien, la parole est à Bill Drake. Donc cette voix d'homme, si... Donc, avec plusieurs casquettes, que je porte. Bon, moi, j'étais conseil d'administration de RALO. Je vais bientôt quitter, après 3 ans, l'unité constitutive, la GNSO. Et je vais devenir une personne de NOMCON, mais ça, ça ne compte pas. J'enseigne la communication internationale et la gouvernance internationale à l'Université de Zurich. Et j'ai travaillé à ces questions depuis 30 ans. Donc, je travaille avec beaucoup. Je suis américain au départ. Et il y a des groupes d'intérêt public. Ça, c'est Public Interest Groups. En anglais, c'est un concept très connu aux États-Unis. Donc, je suis très content qu'on parle de cela, parce que certaines personnes ne semblent pas comprendre cela dans le contexte de l'ICANN. Moi, ça me semble tout à fait important d'avoir ce débat et à partir d'une approche européenne. Wolf a fait un travail excellent au niveau historique. Il a élargi le concept et je crois que vous avez un document plus long qui est écrit en allemand. Vous avez écrit... Non, j'ai... Mais nous aurons une publication d'ici peu. Donc, je crois que vous avez bien mis cela en contexte, mais j'aimerais relancer donc le débat sur les relations entre l'intérêt public et la gouvernance de l'Internet. Et j'aimerais donc noter pour commencer que la notion d'intérêt public est utilisée dans de nombreux instruments internationaux, pas seulement dans le cadre de mécanismes de l'ICANN, NetMundial par exemple. On était à Sao Paulo il y a un an à NetMundial et les ressources mondiales doivent être gérées dans l'intérêt public, dans le cadre de l'intérêt public et du bien commun. L'ITU a également différents accords qui font référence au bien commun, à l'intérêt public. Il y a des traités de l'UIT qui parlent de gouvernance de l'Internet, qui parlent d'intérêt public et qui dit que les réseaux Internet protocole IP doivent travailler dans le cadre de l'intérêt public pour assurer une protection de l'intérêt public dans la gestion des ressources de l'Internet, y compris les noms de domaine et les adresses Internet. Dans les statuts, dans l'affirmation d'engagement de l'ICANN, on en parle plusieurs fois de l'intérêt public, dont le terme est bien connu, il est utilisé. Et pourtant, le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas de véritable définition. Il me semble qu'il y a de cela 10 ans, lorsque nous étions... un sommet mondial, tout le monde parlait de la gouvernance de l'Internet. On ne savait pas ce que c'était que la gouvernance de l'Internet. Et nous avons le même défi qui se pose à nous. Nous avons un standard de comportement, mais on n'a pas clarté au niveau de la signification de l'intérêt public. Donc, ce n'est pas facile d'arriver à une définition unique de l'intérêt public. Cette jeune femme doit écrire un rapport pour l'ICANN. Je lui souhaite bonne chance. Je crois que nous devons serrer un petit peu le concept et le préciser dans le cadre de notre plan stratégique. C'est extrêmement important. Il est important de reconnaître dans le contexte de l'ICANN que référence à l'intérêt public et nous avons un processus politique. Donc, à la NTIA, l'Unie d'Amérique, qui fait partie du gouvernement américain, il y a différents efforts pour travailler différemment avec l'ICANN, pour créer de nouveaux statuts pour l'ICANN. Il y a donc une affirmation d'engagement. Vous connaissez le processus. Et on utilise cette terminologie, et on le fait depuis longtemps dans la réglementation des télécommunications en Amérique. En 1927, ça a commencé, il y a eu une loi sur les télécommunications. En 1934, également, une loi sur les communications, document fondateur pour les lois sur la communication, la télécommunication, la FAA, par exemple, aux États-Unis, et en ministère américain, si vous voulez. Et ce qui est pertinent pour nous ici, pas faire de généralité, mais c'est un environnement différent, celui de l'ICANN, mais il y a des points qu'il faut noter. Et il faut dire que la question de la définition de l'intérêt public, on se bat entre avocats, entre politiques, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il y a une loi sur les radios et télécommunications. On utilise ce terme, on évoque et invoque ce terme très souvent. mais on se bat un petit peu, on se dispute au niveau de la définition de ce terme. Donc il y a des principes qui chapeautent cela et l'on travaille au nom de l'intérêt public. Par exemple, tout le monde puisse se connecter au réseau. On est un service ou pas, ça dépend des coûts, ça dépend en effet de la disponibilité aux voies locales, mais en principe, pour les télécommunications, les réseaux, on doit pouvoir toujours y accéder et tout le monde doit pouvoir y accéder. Ça, c'est dans les textes de loi. Il y a la notion de prix également. Gestion des prix, contrôle de la tarification, contrôle de la tarification des télécommunications dans l'intérêt public. Concentration des marchés. Est-ce que vous avez des pouvoirs sur un marché, un secteur industriel qui a trop de pouvoir? C'est une grande question qui se pose très souvent dans le cadre américain. La protection des consommateurs, ça c'est un autre concept. Le recours, les recours des consommateurs, des clients, des prestataires de services qui peuvent faire rappel, le rapport entre les intérêts commerciaux et non commerciaux pour que les espaces non commerciaux soient réservés, par exemple sur les bandes de fréquences radio. Il y a des fréquences qui sont gardées, conservées pour les organisations à but non lucratif et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'intérêt public tel qu'on le définit, passe les intérêts individuels. Pour le spectre des fréquences radio, par exemple, il y en a très peu. Elles sont peu nombreuses. Donc il y a des stations dans l'intérêt public qui sont réservées aux usagers qui ne sont pas la propriété d'une entreprise, mais qui peuvent être utilisés dans l'intérêt public. Si, par exemple, vous utilisez une fréquence, vous obtenez un droit de licence pour communiquer, mais en fait, cette fréquence ne vous appartient pas. Et ça, c'est des concepts qui se rapprochent de la CAN lorsque l'on parle de télécommunications.
Bien. Dans l'environnement donc de la diffusion, les réglementations des contenus, personnellement, je ne veux pas que ICANN participe aux problèmes de gestion de contenu, mais il y a eu des choses comme la doctrine de la justice au niveau de la diffusion, les exigences de services publics d'annonce dans la sécurité publique aussi, des annonces dans ce sens. Tout cela et va être modifié avec la déréglementation des télécommunications. On a un environnement avec beaucoup d'opérateurs, mais la question est qu'il y a ici une série de concepts qui sont fondamentaux par rapport à la notion de communication électronique et de réglementation dans ce sens. Et beaucoup de gens veulent penser que ICANN n'est pas un régulateur, que ICANN signe des contrats qui spécifient des termes et des réglementations avec des bureaux d'enregistrement et des titulaires de registre. Je pense qu'ICANN est un régulateur. La question est qu'il y a une analogie entre ces concepts qui concernent le travail de ICANN. Il y a d'autres concepts venant d'autres pays, d'autres régions. Et une des choses que je cherche au niveau du personnel, je voudrais qu'il y ait un dialogue qui devrait avoir lieu au sein de la communauté. Une des raisons pour laquelle je recherche cela, c'est que je pense que nous devons avoir, comme Wolf l'a dit, je ne sais pas ce qui se fait dans d'autres régions, personnellement, mais je ne sais pas comment la notion d'intérêt public a été définie ou mise en œuvre en Amérique latine, en Asie, s'il y a un concept, si le mot est différent, mais si le concept de base est le même, s'il y a des exigences semblables. Et donc, le projet, à mon avis, ce qui doit être fait ici, c'est essayer de réunir tous ces concepts dans le cadre de l'ICANN. Et pour conclure, je dirais que ce que l'on veuille ou pas parvenir à une définition accordée. Et c'est une question controversielle dans le domaine de ICANN. Certaines personnes disent, on va pas pouvoir le faire dans le domaine des télécommunications, ça sert à rien. Et j'ai des collègues dans la société civile qui partagent aussi cette opinion. Personnellement, je pense que on doit quand même essayer de parvenir à une compréhension générale. J'ai organisé un atelier lors de la réunion de l'IGF du Brésil. Il y aura des gens de ICANN qui vont participer. Nous allons parler de ces problèmes lors de cet atelier. Et Wolf, je suis content que cette conversation ici ait lieu à Neuralo. Nous avons besoin de participer davantage et de dans son ensemble. Merci beaucoup, Bill, dit Olivier Crépin-Leblanc qui reprend la parole. Je vois qu'il y a déjà des mains levées sur Adobe Connect, mais nous allons prendre les questions ensuite, hein, lorsque aura lieu le débat. Nous allons maintenant donner la parole à Lorénal pour une autre approche. Lorraine Allison, je suis directrice du département de responsabilité publique, DPRT. Vous avez entendu parler de la plateforme de e-learning, des boursiers, de la next gen, de la génération, la prochaine génération. Merci de m'avoir invitée. Je dois présenter les excuses de Nora qui n'a pas pu venir. D'abord, bien comme tout le monde le sait, c'est une question qui a été importante au sein de différents groupes et des documents ont été écrits là-dessus. Et on a essayé de définir cela en 2013, en 2014. Nick et moi-même, nous avons travaillé dans un groupe de travail hein, qui était responsable donc de définir le terme de intérêt public et le terme de la responsabilité publique de ICANN. Et ce que notre panel a fait, ce que ce groupe de travail a fait, nous avons eu des sessions ouvertes à la communauté lors de la réunion de Buenos Aires et de Singapour. Nous avons parlé avec la communauté, nous leur avons demandé ce qu'ils pensaient que l'intérêt public était pour parvenir à une définition. Je sais que ALAC a envoyé une lettre au Conseil pour soutenir ce rapport et sa diffusion. Et je sais aussi que ce panel a voulu adopter une définition. Donc, cette définition n'est pas terminée. Nous n'avons pas encore fini de l'adopter, mais on est sur la bonne voie. Bien. Donc, nous avons, au cours de ces 4 ou 5 dernières réunions, nous avons entendu parler beaucoup de cette thème, de cette question. Nous sommes en train de faire une formation de compétences pour voir comment la question de l'intérêt public est compris au sein de l'ICANN. Nous avons différents documents qui font allusion à l'intérêt public et nous essayons de voir quels sont les départements et quels départements sont intéressés par cet intérêt public, quelles sont les définitions que nous avons, quels sont les paramètres qui pourraient avoir un impact sur au niveau fiscal, au niveau légal ou sur l'intérêt public et sur la définition que nous pouvons adopter. Donc, c'est un travail qui est en cours de réalisation. Du point de vue, nous travaillons au niveau interne hein, et nous avons maintenant... Nous sommes en train de recueillir tout ce qui va les commentaires utilisés par la communauté pour aborder cette question, ce qui a été dit et dans des conversations à Buenos Aires par des membres de la communauté. Et la communauté a beaucoup de travail en ce moment pour les définitions. Donc, on nous a dit qu'il n'y avait pas suffisamment de largeur de bande pour que l'on travaille là-dessus. Donc, on essaye de voir et comment avoir davantage de ressources à la disposition de la communauté pour participer à cette discussion lorsqu'ils seront prêts à le faire. Nous savons qu'il y a aussi, on a aussi besoin de davantage de ressources sur la page Wiki. Les personnes voudraient avoir accès à différents types de ressources pour couvrir la complexité de ce problème. Donc, je pense que de ma part, j'ai fini. Si vous avez des questions à me poser, je serai ravie d'y répondre et je serai très heureuse aussi d'entendre de votre part votre opinion sur tout ce point, dans quelle mesure ce que nous faisons peut vous être utile, quels sont les paramètres ou les définitions qui, à votre avis, pourraient être aussi corrects, qu'est-ce qui pourrait être utile comme document, comme matériel sur cette. Merci beaucoup, Lorraine. Nous avons donc eu plusieurs définitions, nous avons entendu l'histoire aussi, dit Olivier Crépin-Leblanc, les raisons pour lesquelles il n'y a pas une véritable définition de l'intérêt public et autres. Et nous allons maintenant commencer la discussion. Vous avez deux moyens de lever la main. Vous pouvez lever la main sur Adobe Connect, mais si vous êtes ici dans la salle, vous pouvez lever votre carte. C'est pour ça que vous avez une carte. D'ailleurs, vous mettez votre carte comme ça et je vais vous inscrire dans une liste. Nous allons commencer par Jean-Jacques Subrona, qui donc a levé la main, qui a demandé la parole, et nous lui donnons donc la parole. Jean-Jacques, vous avez la parole. Merci beaucoup. C'est Jean-Jacques qui prend la parole. D'abord, je voudrais dire que ceux qui ont pris l'initiative dans l'équipe de leadership de Neuralo de se concentrer là-dessus ont eu une très bonne idée. Bravo, Wolf, pour ce travail que tu as fait. Et Bill aussi, vous avez vraiment ajouté ici un commentaire très, très utile. C'est trois remarques. La première concerne la question, l'aspect légal. Un petit nombre de pays, je crois que c'est en Finlande d'abord, on a le droit à Internet et ce droit est maintenant un droit dans lequel on ne peut pas s'opposer. Hein. C'est un droit inaliénable, c'est-à-dire que si on est un citoyen de Finlande, on peut réclamer ce droit, faire un procès à l'État si on n'a pas ce droit d'accès à Internet. Je pense que c'est un bon exemple, une désirée dans le reste du monde, mais ce n'est hélas pas dans beaucoup de pays du monde, on n'a pas cet accès à Internet. Deuxième point, je suis au courant du travail fait par Lorraine et son équipe avec les membres de la communauté de l'ICANN, et je pense que c'est très utile de nous dire deux choses. D'abord, nous donner les liens vers les documents et vers les discussions qui se sont tenues jusqu'à maintenant et auxquelles je n'ai hélas pas pu prendre part. Et le deuxième point, c'est, même si c'est un petit peu de travail que je vais vous demander, je pense que ce sera assez simple, faire une liste, si vous voulez bien faire une liste des raisons spécifiques qui ont été invoquées par le secteur commercial, par certains gouvernements, contre la possibilité d'inclure cette notion d'intérêt public dans leur règlement, dans leur statut. Wolf et Bill nous l'ont dit, ils nous ont donné un très bon appui concernant l'intérêt public. Notre problème en tant que membre de la communauté, nous ne voulons pas imposer ces décisions au monde entier concernant ce sujet, mais nous voudrions identifier les points importants. Et en tant que membre de la communauté, quels sont les arguments qui s'opposent à l'intérêt public? Donc, les définir et nous en faire part, nous pourrions travailler de manière beaucoup plus efficace. Merci beaucoup Jean-Jacques. Olivier Crépin-Leblond reprend la parole. Maintenant, nous avons Annette Mühlberg dans la queue qui a demandé la parole. Annette, vous avez la parole. Merci beaucoup Wolf pour votre définition, votre aperçu de l'approche européenne concernant l'intérêt public. Je pense que c'est utile d'avoir certaines choses qui puissent nous unir, permettre d'avoir une discussion concernant les règles de base que nous partageons au niveau culturel, quels sont les aspects qui sont derrière tout ça. Ça facilite notre... Dans le cas de Lorraine, je voudrais lui dire que je serais tout à fait curieuse de voir ce que Wolf a aussi mentionné. Il y en a des approches similaires dans le monde. On peut considérer comme des choses que nous partageons. Je pense que c'est une bonne approche. Ensuite, je voudrais remercier Bill aussi, qui a vraiment commencé à appliquer cela au monde de l'ICANN. Et je pense qu'il y a dans cette discussion deux aspects que j'aimerais ajouter. Le premier, nous parlons du monde de l'ICANN actuellement. Nous parlons de choses, de structures de communication de base, et communication. Donc, c'est vraiment des services. Et l'autre, pour que ce service soit disponible à tous, disponible et accessible à tous, il y a un point important qui surgit ici, et ce point est lié aussi au processus de prise de décision. Donc le fait de définir l'intérêt public ne suffit pas. Il ne suffit pas de parler de possibilité d'accéder à ces services. Il faut aussi parler de processus de prise de décision. Et il faut aussi parler de la monopolisation. Nous avons un exemple pour voir les choses de manière plus pratique dans le contexte de l'ICANN. Par exemple, être autorisé à créer un TLD.food.aliment comme TLD fermé ou pas. Est-ce qu'elle devrait être ou pas? Est-ce qu'il s'agit d'une question d'intérêt public, de droit des consommateurs? C'est juste pour vous donner une idée de la réalité des gens que nous avons au sein de notre groupe monde de l'ICANN. Merci beaucoup, Annette. Olivier Crépin-Leblanc reprend la parole. Vous avez mentionné la question des TLD, des Nobel de premier niveau, qui a été discutée au sein de la LARGE. Nous avions différents points de vue. Certains étaient en faveur. Il y a eu une discussion, une longue discussion là-dessus. Bien, maintenant, nous allons donner la parole à Stefano Ciompi, Caroline, Oliver Pasek, Brenda, Mathieu Camus. Nous allons donner la parole à Stefano. Merci beaucoup. Et Stefano prend la parole. Donc, cette discussion est très, très intéressante parce que tâche des structures, nos structures à large, d'essayer de comprendre en quoi consiste l'intelligence et d'essayer d'élaborer une déclaration et ensuite d'essayer d'appliquer cela et ou de réunir tout cela selon le point de vue de l'Europe. Parce que vous l'avez dit, l'Europe a une approche différente si on parle des autres régions pour une question bien. Maintenant, si l'on prend les structures, je pense que devrait en général faire une approche du problème qui permette de lister un petit peu tout cela. Vous avez dit, on regarde les principes généraux, c'est quelque chose qui a été fait à São Paulo il y a un an, c'est plus facile. Mais lorsque l'on doit créer des opinions concernant l'intérêt public sur des choses plus pratiques, comme par exemple ce que ma collègue Annette vient de mentionner à ce moment-là, et parce que les parties prenantes qui sont concernées peuvent avoir des conflits d'intérêts entre elles ou ont peur d'avoir des conflits d'intérêts qui surgissent entre elles. Donc, il est très important d'aller avec les parties prenantes pour leur permettre d'admettre ou d'élaborer d'analyser s'il y a des conflits entre les utilisateurs et l'intérêt public et les différents acteurs. Donc, les personnes qui participent à tout cela doivent appliquer un peu ou faire preuve d'une certaine relativité parce qu'il faut tenir compte du fait que, historiquement, il y a, dans un an, dans deux ans, la question de l'intérêt public et sa définition risque d'évoluer, de changer. Je vais vous donner un exemple. Avant le début le lancement du programme de nouveau GTLD, la contribution de VeriSign au budget était de 5%. Donc, c'est quelque chose qui représente l'intérêt public. Mais à ce moment-là, il faudrait que, lorsque l'on considère ceci, il y avait des raisons historiques. Mais donc, pour ne pas interrompre, pour ne pas nuire à tout cela, je pense qu'il faudrait mieux là, mais de manière provisoire, et puis essayer ensuite d'élargir la distribution des revenus dans le secteur privé. Donc, nous avons vraiment besoin de cette relativité pour former l'intérêt public et pour juger le niveau d'intérêt public. Merci beaucoup, dit Olivier Crépin-Leblanc. C'était un angle très intéressant. J'ai parlé, je crois que Bill l'a dit, cet intérêt public est-il un intérêt que l'on pourrait considérer comme... Qu'est-ce que vous en pensez, Bill? Pas nécessairement. Je pense qu'on peut se demander comment ces intérêts sont représentés dans le passé. Par exemple, on peut penser qu'il y a des intérêts individuels d'un acteur qui ne participent pas au processus de prise de décision et qui sont indirectement représentés. Par ailleurs, il y a des gens ou des acteurs qui peuvent participer, qui peuvent essayer de capturer certaines choses. Donc voilà, ce sont les défis qui existent. Donc la représentation des personnes qui ne participent pas directement et des personnes qui participent doivent pouvoir participer. Voilà. Carlin Sevenard, c'est une question à Lauren et bravo à tous les trois pour votre présentation. Je voudrais vous demander quelque chose pour mieux comprendre ce que ICANN aborde tout cela. Donc, si j'ai bien compris, ICANN essaye de créer une base légale sur la façon dont l'action de l'intérêt public a été utilisée, appliquée ou apparaît dans différents documents, les statuts et différentes d'options comme le programme de GTLD, etc. Est-ce que j'ai bien compris? C'est ce que vous faites? Vous essayez de, donc de donner tous ces jalons dans l'histoire de l'ICANN pour la mise en œuvre de l'utilisation ou pour l'utilisation du concept d'intérêt public en tant que tel? Lorraine prend la parole. Nous sommes en train de créer une recherche pour que tout cela soit. Cela sera bientôt disponible. Nous sommes en train de faire un inventaire des références à l'intérêt public au sein de l'ICANN pour savoir s'il s'agit donc d'un engagement, s'il s'agit des engagements liés à l'intérêt public. Nous essayons de trouver où est-ce que le terme a été utilisé. Lorsque la conversation commencera, on pourra voir dans quel domaine cela a été considéré, de façon à ce que l'intérêt interne, la prise de décision atlas, ce que cela signifie pour le département de communication, ce que celle-ci et l'administration, voir quelles sont les implications pour chaque groupe au sein de l'ICANN et essayer aussi les ressources disponibles pour que tout le monde ait un bon contexte pour analyser cela. Est-ce que vous regardez aussi, et ça c'est ma question en réalité, l'utilisation du concept pour les parties prenantes comme les unités constitutives, le GAC, en les reliant au cas où le Conseil de l'ICANN suit ces argumentations, parce que j'ai observé la prise de décision de l'ICANN, ce concept a été aidé par beaucoup d'unités constitutives et de parties prenantes au cours des dernières années, et de manière différente, selon des angles tout à fait différents. Et donc, actuellement, je n'ai pas vraiment une compréhension claire de ce que ICANN va faire, si ICANN suit cette poussée des multipartites envers ou pour cette approche liée à l'intérêt public, ou s'il y a au contraire une confrontation par rapport au groupe de parties prenantes. C'est une très bonne question, dit Lorraine. Et moi, c'est une question que je voudrais poser aussi au groupe. Une des choses que nous avons fait avec le département de l'ICANN, ça a été de créer une enquête, un sondage. On demandait comment est-ce que chaque département considérait l'utilisation de ce concept et est-ce qu'on y faisait référence explicitement ou implicitement dans leur travail. Nous avons un sondage qui peut être utilisé par la communauté. Nous aimerions savoir où est-ce que ce sera utile dans les en groupe. Donc, nous avons ce sondage qui est à votre disposition. Nous allons prendre les réponses à ce sondage et à ce moment-là, je pourrai vous donner des réponses sur l'utilisation de ce concept au sein du GAC, au sein de la GNSO, au sein de NPAC, par exemple. Comment est-ce qu'il est utilisé? Comment on y fait référence? Ça va nous être aperçu aussi. Donc, si c'est utile pour vous, nous pouvons vous donner l'accès à ce sondage. Nous voulons avoir un travail le plus ascendant possible. Donc, voilà, j'insiste aussi là-dessus. Merci beaucoup, Lorraine. Olivier Crépin-Leblond prend la parole. Olivier Pastic, vous avez la parole. Merci. Je vais mettre l'accent sur le fait que l'intérêt public mondial est une espèce d'ADN pour les ambitions politiques de Euralo et nous devons mettre cela dans nos processus. Je pense qu'il y a des liens politique très fort avec des thèmes qui intéressent les utilisateurs, par exemple l'Union européenne, la partie légale concernant les propriétés, la propriété intellectuelle, les brevets pour les hyperliens, les vidéos qui peuvent être donc incluses dans certains matériels. Nous avons aussi les liens avec les processus, les liens entre ICANN et les processus liés aux biens publics qui sont très importants au niveau de la transition. Il y en a aussi, c'est lié à cela. Il ne faut pas oublier qu'il y a une question de transparence dans les structures de l'ICANN. Des questions comme des systèmes de gestion de portefeuille doivent aussi être intégrés dans ces théories et avec des résultats pratiques. Merci beaucoup, Oliver, dit Olivier Crépin-Leblond. Nous avons Jean-Mathieu Camus, Miguel Pérez-Souvies, Manuela. Nous avons une longue queue. Donc, Breda, vous avez la parole. Breda Coutin de Slovénie. Moi aussi, je travaille avec le travail sur le consommateur au niveau européen et l'association de consommateurs européenne. Et nous avons un dialogue à ce niveau-là, hein, avec les différents consommateurs. Et je pense que ICANN n'est pas vraiment visible dans ce domaine. La question de l'intérêt public, pour moi, je ne suis pas un avocat. Il y a beaucoup de travail légal au niveau européen. Je ne suis pas non plus dans le domaine de la politique. Je suis dans le domaine de la défense des consommateurs. Et donc, je pense que c'est simple. Que signifie, de manière pratique, l'application de l'intérêt public dans la vie au quotidien? L'intérêt public pour les défenses du consommateur, c'est le bien-être des consommateurs ou des citoyens. Il y a des personnes qui font une différence entre consommateurs et citoyens. Bon. Donc, mettre l'intérêt public face au profit commercial, c'est une question clé qui, à mon avis, est en train de revenir à l'ordre du jour. Et si on regarde cela du point de vue de la perspective des droits des consommateurs, on parle de disponibilité, de choix, hein, et certains services sont déjà considérés pour nous comme des services universels. L'accès à l'Internet, la neutralité sur le net, les services universels sont, de notre point de vue, selon des législations européennes, hein, par exemple, on a le droit à avoir un compte en banque fondamental, de base. Hein. Donc, ce sont des droits fondamentaux et l'accès à l'Internet devrait aussi être un de ces droits fondamentaux. Il ne devrait pas être discuté. Hein. Mais on en parle depuis une quinzaine d'années et nous considérons cela comme un droit auquel on ne peut pas fonctionner correctement. Maintenant, aussi important au niveau du processus de prise de décision, c'est aussi important de s'ouvrir à l'intérêt, hein, et d'ouvrir la question de l'intérêt public ici. Et la question de la transparence aussi, hein, on peut voir que qui est très appréciée, hein, mais c'est un concept qui est très difficile à appliquer dans la vie, hein, au jour le jour. Donc je dirais, ce que nous devons, hein, faire, on voit ce que nous devons faire pour, donc, en ce qui concerne la responsabilité de l'ICANN, ce qui doit être fait dans ce domaine, et voir ce qui doit être fait dans les autres secteurs qui finalement sont liés à l'intérêt public et ont quelque chose à voir avec ICANN. Et merci, Breda. Mathieu Camus, vous avez la merci, Wolf, pour votre travail. Mathieu Camus prend la parole. C'est très difficile de donner une définition de l'intérêt. Et j'ai regardé sur la page Internet de la Commission européenne, il n'y a pas de définition, même si dans votre document, il y a une section dans laquelle vous parlez des fondements constitutionnels, mais dans plusieurs pays européens, on a différentes définitions de l'intérêt public. L'Union européenne fournit une définition de l'intérêt public, mais elle n'est pas vraiment intéressante dans notre cas. Aux États-Unis, l'intérêt public est considéré comme la somme des intérêts individuels. Mais en Europe, c'est plus que cela. Il y a certains aspects qui dépendent vraiment de l'intérêt social et général. Et je pense que pour être plus proche de l'intérêt public et de la définition de l'intérêt public, hein, nous devrions parler d'une notion de bien commun, de l'Internet en tant que bien commun qui repose vraiment, qui est un des droits fondamentaux de l'utilisateur final pour donc protéger l'accessibilité, la possibilité d'accéder à l'Internet. Je pense que dans notre cas de RALO, je pense que respecter les droits fondamentaux des utilisateurs, ce serait une bonne manière de finir cela. Merci beaucoup, Mathieu. Je pense que Wolf a peut-être une réponse à donner là-dessus. Wolf Ludwig prend la parole. Oui, vous avez raison. C'est une question polémique, mais merci de me donner les mots clés ici. Si l'on regarde de plus près la Commission européenne au cours de ces 30 dernières années, on se rend compte que l'Union européenne est devenue petit à petit laissé disparaître des principes qui étaient des principes fondamentaux à une époque. Hein. Donc, si vous regardez à Bruxelles, hein, si vous regardez avec votre collègue Oliver Passy, qui est à côté de vous, qui travaille les Grecs, qui a travaillé avec les Grecs à Bruxelles, à l'Union européenne, mais pour rester bref, hein, prenez d'autres exemples. Par exemple, est-ce qu'il s'agit d'une question de bureaucratie avec des intérêts donc particuliers? Et même les parlementaires en Allemagne n'ont pas le droit de voir les documents de négociation. Donc, c'est exactement le contraire de ce que nous comprenons. Et nous parlons de l'intérêt public. Pour moi, au niveau européen, hein, je me rapprochais du Conseil d'Europe et nos documents clés viennent du Conseil de l'Europe pour tout cela. Le Conseil de l'Europe est pour moi parmi les termes de référence. Hein. Et pour moi, la Commission est devenue un cauchemar. Et au cours de ces dernières années, je n'ai plus confiance en eux du tout, du tout. Voilà. Merci beaucoup, Wolf, dit Olivier Crépin-Leblond. Nous avons Manuel Bogda. Merci. Je vais rendre ce qui vient d'être dit parce que je pense que si on parle de définition de commentaires publics, de l'intérêt public, on peut continuer à discuter pendant 3 jours. Donc peut-être que ça ne devrait pas être notre principal objectif. Nous devons d'abord essayer d'avoir une idée de ce que l'intérêt public signifie et voir comment il affecte de manière pratique l'ICANN. Et je pense qu'il y a 2 directions dans lesquelles on doit regarder. D'abord, la prise de décision au niveau d'ICANN et sa liaison avec l'intérêt public et les procédures appliquées, la possibilité de recevoir des commentaires de tout le monde, comment est-ce que le secteur commercial participe à la prise de décision et les activités de l'ICANN. Je pense qu'ici, il y a des problèmes simples qui peuvent être réglés demain s'il y a un intérêt et si ICANN respecte ces principes. Par exemple, pour avoir une licence de création commune pour tout le matériel qui est disponible sur le site internet d'ICANN ou d'utiliser une caisse à outils libre et à disposition pour tout le monde. Hein. Par exemple, maintenant, nous sommes connectés sur Adobe Connect, mais si on est un utilisateur de Linux, on ne peut pas. Donc voilà, ce sont ce type de problèmes pratiques de mise en œuvre de l'intérêt public qui sont les aspects qui devraient être considérés par ICANN pour les prochaines étapes.
Merci beaucoup, Olivier au micro. Merci, Bogdan. Oui, j'ai entendu des applaudissements. Vous parlez de Linux. Donc, Elia Lantziporo. Si. Donc, je pense que pour parler de l'intérêt public, il serait intéressant de revenir sur le concept employé dans la communauté Internet et revenir au rôle de ce concept, à mon avis, auparavant, voyons les choses un petit peu différemment. Lorsque l'on a incorporé l'ICANN dans l'article 4, on devait opérer pour l'intérêt de la communauté de l'Internet dans son ensemble. Alors, lorsque l'on dit cela, qu'est-ce que c'est que la communauté Internet? Est-ce que ça inclut les utilisateurs? Je crois que c'est clair pour nous. Exact. Donc, qu'est-il advenu de ce concept? Il y avait de centaines de millions d'utilisateurs à ce moment-là, quand la ICANN a été créée. Donc, ils semblaient un peu fous, ces utilisateurs de l'Internet. Ils étaient peu nombreux. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie pour la communauté de l'Internet d'avoir tant d'utilisateurs finaux? Donc, il faut réfléchir à cela quand on parle d'intérêt public. Merci, Erio. Nous avons Miguel Pérez-Soubias. Oui, je m'appelle Miguel Pérez-Soubias. Je suis d'Espagne, des utilisateurs d'Espagne. J'aimerais partager avec vous une réflexion sur ce qu'est le problème pour nous. Donc, il faut rechercher ce que nous avons en commun. Personne ne sait ce que nous faisons dans nos pays, au niveau local, au niveau des activités locales. Donc, pour nous, ce serait très utile de savoir que chacun fait dans sa collectivité locale, dans son pays, parce que moi, par exemple, je me concentre sur l'anonymisation, le respect de la vie privée, et c'est déjà beaucoup. Si l'ICANN peut me donner des outils pour pouvoir contacter d'autres associations dans ce cadre, ce serait intéressant. Je crois que ça serait intéressant de bâtir quelque chose ensemble. Moi, je n'ai pas assez de temps. Ce n'est pas ma priorité de parler au niveau mondial. Moi, je m'intéresse surtout à ce qui se passe autour de moi et j'ai besoin d'aide néanmoins. Et je crois que ça serait bien de partager nos activités locales, de savoir ce que l'on fait pour l'anonymisation, pour les droits d'auteur, pour les et ainsi de suite. Donc c'est ma suggestion. Merci beaucoup, Miguel. Nous allons déjeuner ensemble et c'est exactement pour cela. Vous allez pouvoir réseauter, prendre des contacts, vous rencontrer, parler d'intérêt public ou d'autres choses, d'autres thèmes. C'est exactement le bon moment. Ce sera le bon moment. Se faire. Nous avons fait une enquête. On ne sait jamais comment bien poser les questions. On reçoit différentes réponses. On n'a pas la réponse que l'on veut parce que l'interprétation de la question n'était pas exactement la même. Donc, lorsque l'on se voit face à face, c'est beaucoup mieux. Julia Morenes. Merci beaucoup, Olivier. Oui, j'aimerais revenir sur la cybercriminalité, ce qui m'intéresse beaucoup, et également sur les principes de base du Conseil de l'Europe. Et je me rappelle, en 2008, début de ces débats au Conseil de l'Europe, on parlait de plus en plus de l'Internet et de l'intérêt public. L'accès à l'Internet était un droit de l'homme de base, était vu comme cela. Et les utilisateurs avaient le droit d'être des utilisateurs de l'Internet. C'était un excellent article, des recommandations qui avaient été publiées pour donc prendre l'accès à l'Internet comme droit de l'homme de base. Donc, je crois qu'il faut revenir à ces recommandations, voir cet article qui était très très bien au niveau du Conseil de l'Europe. Merci, Olivier au micro. Je donne la parole à Wolf. Un petit commentaire. La Finlande, me semble-t-il, la Finlande, ça a déjà été mentionné, c'est un pays européen qui a, je crois, inscrit dans sa constitution, si je ne me trompe pas, et on revient au concept du Conseil de l'Europe. On en a parlé dans d'autres pays. Mais aucun autre pays ne s'est concentré autant sur cette question. Il y a de cela 3 ans et nous les félicitons. La Finlande a été un pays précurseur. Les meilleures pratiques proviennent de Finlande dans ce cadre et ça pourrait être mis en œuvre dans d'autres pays européens. C'est bien financé, c'est une recommandation du Conseil de l'Europe. Ça pourrait être appliqué dans toute l'Europe. Pour le moment, c'est des vœux pieux, et c'est uniquement fait en Finlande. Merci, Wolf, Olivier, au micro. Oui, j'ai vu... allez-y, mais Caroline veut parler aussi. Hein. Oui, Rio, Lansipuro, oui, ça fait partie des services universels. C'est pas dans la constitution finlandaise, mais en effet, l'impact est le même. Merci, Rio, Caroline. Une question de procédure. Parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste 6 minutes, je crois. Donc, quel est l'objectif de ce débat? Est-ce que nous approuvons quelque chose ou bien, je crois que ça sera difficile, mais je ne sais pas. Une question très ouverte pour le modérateur ou les modérateurs. Et ce que je voulais dire également, j'ai regardé le règlement intérieur Euralo, statut, et au 3.1, nous avons un paragraphe sur l'association qui représente un bon guide parce que nous devons fournir des conseils sur les activités de l'ICANN en rapport aux intérêts des utilisateurs individuels de l'Internet. Donc, comme Wolf l'a dit au début, la tradition européenne sur l'intérêt public est forte. C'est un point de vue que l'on pourrait utiliser et sur lequel on pourrait trouver un consensus. Et dans notre structure, nous pourrions fournir des conseils avec la perspective des utilisateurs de l'Internet. Donc, c'est une petite part du gâteau, mais c'est quelque chose qui nous permettrait d'avancer. Merci beaucoup Caroline, Olivier Capin-Leblanc. Donc au niveau du processus, il nous reste une dizaine ou cinq minutes plutôt pour cette séance. Nous allons donc cet article de Wolf. Nous voulions adopter éventuellement cet article, mais il y a eu des contributions extrêmement intéressantes, me semble-t-il, ce matin, et Lorraine a pris des notes. Bill a dû s'absenter, je ne sais pas. Il a laissé ses affaires, donc je pense qu'il va revenir. J'aimerais d'abord passer la parole à Wolf, puis après on verra. Wolf Ludwig, pour vos remarques conclusives, pour remettre en contexte cela. Nous avons commencé avec une idée, avec un concept, et nous avions un article d'une quinzaine de pages. Nous l'avons réduit, résumé en deux pages essentielles, c'est le cœur du sujet. Et pour l'Assemblée générale, après avoir entendu ce que vous avez dit et vos contributions, je crois que nous partageons les mêmes valeurs. Pauline l'a bien dit, c'est également reflété dans la mission et dans nos textes statutaires, dans nos statuts. Donc, il me semble que ça a toujours fait partie de l'identité politique de notre communauté. Pour moi, c'est grand plaisir que j'arrive à cette conclusion. Du point de vue du consommateur, du point de vue de l'anonymisation, du respect de la vie privée, ces droits de base fondamentaux, des libertés fondamentales orientées dans la tradition des droits de l'homme et de la déclaration des droits de l'homme. Je crois que moi, je ne suis pas un angliciste. Peut-être qu'il y a des problèmes avec l'anglais que j'ai utilisé, mais j'ai fait de mon mieux. On peut nettoyer un petit peu l'été le texte. Et si nous pouvions être d'accord et tomber d'accord sur la substance de cette déclaration, ça pourrait être approuvé par l'Assemblée générale. Et cela sera remis au RALO et à l'ALAC pour inviter les RALO et l'ALAC, les inviter et les encourager à lire ce document, à prendre en compte ce document dans le contexte régional et de voir les similarités qui existent, les points communs qui existent entre les différentes régions. Et ça pourrait être enrichi donc par plus de RALO. Et après un an, nous pourrions inclure les contributions des autres régions, des cinq RALO. Je crois que ça pourrait être adopté au niveau de l'ALAC également. Et parallèlement, nous pourrions penser à ces valeurs partagées, ces valeurs communes qui existent autour du GAC également. Je suis sûr et je sais qu'il y a des personnes du GAC qui sont d'accord avec ces concepts. Donc c'est en termes stratégiques que je pense. C'est une alliance qui pourrait exister entre les personnes intéressées par l'intérêt public, les entités constitutives, les unités qui s'intéressent au bien public, au bien commun. Donc c'est comme ça que je vois, je fais référence à ce document. C'est adopter l'esprit du document, continuer le travail. Merci Wolf. Nous avons Sandra Hofrichter. Oui, Sandra au micro. Il me semble que c'est une très bonne idée, ce que vous avez proposé, Wolf, particulièrement pour partager cet article avec les autres RALO, parce que l'historique sera peut-être différent dans différentes régions du monde, mais c'est une très bonne approche de commencer à regarder par l'histoire et de voir comment on définit donc, ce bien commun, cet intérêt public, afralo, en Amérique latine, en Asie-Pacifique. Donc je crois que c'est bien de lancer le débat sur l'intérêt public. Parce que, comme cela a été mentionné auparavant, durant cette séance, l'intérêt public, on en parle beaucoup. Différentes parties prenantes parlent de l'intérêt public, mais les utilisateurs de l'Internet ont la possibilité de lancer le débat et d'avoir une approche plus large pour l'ICANN. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez proposé. J'aimerais vous remercier d'avoir travaillé à cela. C'est excellent. C'est un très bon début. C'est vraiment une conversation très intéressante que nous avons eue ce matin. Merci beaucoup, Sandra. Caroline? Non, Michael. Oui, merci. Oui, en effet, c'est tout à fait intéressant. Et pour moi, j'aimerais rajouter certains points. Lorsque je regarde ce terme « intérêt », mais je cherche le sujet de l'intérêt. Public, c'est très, très général. Donc peut-être qu'il faudrait rajouter quelque chose. Donc public, est-ce que ça veut dire les utilisateurs? Est-ce que ça veut dire consommateurs? Est-ce que ça veut dire les entreprises? Donc oui, on va continuer à débattre de cela autour du déjeuner. Bill Break. Oui, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. J'ai seul petit point, petite préoccupation. Le fait est qu'il y aura risque de capture, risque de capturer le terme, le concept. On le voit pas. On a vu que le GAC, les entités commerciales également. Oui, le GAC, comité consultatif des gouvernements. Donc, ils disent, parce que oui, c'est dans l'intérêt public, et ils capturent un petit peu le concept. Enfin, certains groupes peuvent le faire. Donc, c'est un risque qui existe. C'est pour cela que ce serait utile, me semble-t-il, d'arriver à un consensus sur des éléments de base que, par exemple, Nick Wehner dit, j'ai de l'intérêt public. Pour moi, il faut que l'Internet reste stable, inclusif, pour que tout le monde puisse voir un Internet ouvert. Donc, stable, inclusif, accessible. Ça, ce sont des concepts de base intéressants que l'on peut généraliser. Et il y a des raisons pour lesquelles cela fonctionne à l'ICANN. Est-ce que cela rentre en ligne de compte à l'ICANN? Il faut commencer peut-être à bâtir à partir de ces concepts simples. Et on pourrait commencer le dialogue de cette manière. Parce que en Afrique, je pense qu'il y a des concepts similaires. Oui, merci Bill. J'ai vu qu'il y a plus de doigts qui se lèvent. Et je ne sais pas si on aura le temps, mais Bastien qui n'a pas encore parlé, donc j'aimerais lui donner la parole. Jean-Jacques, deux mots seulement et vous conclurez. Et ensuite, nous verrons s'il y a des objections qui sont levées par Wolf ou par Bill. Donc on verra et ensuite on parlera de cela à l'avenir. S'il n'y a pas d'objection, nous y reviendrons. Nous allons voir la suite. Oui, merci. Bastien Rosling, je suis des Pays-Bas. Merci de me donner la parole. Pas une question, mais un commentaire en rapport avec quelque chose de très important pour les utilisateurs finaux. J'ai été invité ce matin à commenter sur un rapport qui a été publié, la responsabilité d'entreprise et les droits de l'homme de l'ICANN à l'ICANN. Donc ça, c'est pour une entité constitutive non commerciale. Oui. La LAC fait également partie de ce groupe intercommunautaire. C'est pour cela que je veux savoir si la LAC est bien au courant. Mais comme Wolf l'a dit, on a parlé du Conseil de l'Europe. Nous avons un rapport du Conseil de l'Europe. Et pour paraphraser leur conclusion, l'intérêt public, c'est trop vague et il faut plus préciser les choses. Il faut que ça soit plus précis et spécifique. Donc il y a beaucoup de travail qui est effectué au CCWG également, pour incorporer cela dans les statuts de l'ICANN. Donc, c'est très important que l'ALAC travaille à cela. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Bastien. Ce sera inclus. C'est Olivier au micro, Jean-Jacques. Un mot. Merci. Deux points. Deux demandes. Donc, pour rebondir sur les remarques de Bill, pour être le plus efficace possible, nous devons, comme je l'avais demandé, de la part de Lorraine, nous avons besoin d'une liste des objections spécifiques que l'on a entendues des entreprises ou des gouvernements sur l'intérêt public. Et deuxièmement, j'aimerais soutenir fortement la suggestion de Wolf et les suggestions de Wolf, j'allais le dire il y a à peu près une demi-heure. Il faut travailler avec les RALO et, d'une manière plus importante, il faut informer l'ALAC immédiatement. Demander le soutien de l'ALAC pour que ce soit un effort collectif. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Olivier, au micro. Donc, Lorraine, vous concluez une nouvelle fois. Merci, de m'avoir invité à cette réunion. J'ai pris des notes de toutes les suggestions qui seront utiles. J'aimerais savoir également, à l'avenir, quel est le meilleur moyen de communiquer. Je crois que nous avons des suggestions sur l'espace Wiki. Donc, nous allons mettre des liens en place et nous allons planifier Marrakech peut-être ou la prochaine réunion de l'ICANN pour que nous ayons un point de contact et la possibilité de continuer notre travail. Olivier Pinleblon, finalement. Donc, est-ce qu'il y a des objections ou est-ce que nous avons atteint un consensus? Donc, tel que cela a été présenté par Bill et Wolf, y a-t-il un consensus autour de ces concepts? Attention. Donc, merci beaucoup. On y est arrivé et nous levons maintenant la séance. Séance élevée. Merci. Merci aux interprètes.
Just to remind the ALSers who have responded to the lunch invitation, you've all received your...